La dernière fois annoncée sur les différents aspects et essayer de comprendre ce que représentent les différents aspects successifs des filiaristes. Vous avez dit que de fait, ce livre ne possédait pas une unité parfaite, que il y avait des aspects successifs et il était très difficile au fond de saisir vraiment la signification profonde de ces différents aspects. Cependant, si on se mettait dans la perspective de la recherche du comment de la substance sensible, que c'est vraiment ça l'interrogation, on pourrait préciser successivement ces différents aspects. Alors, je ne reviens pas sur ce que nous avions dit la dernière fois, parce que je voudrais quand même terminer cette fois-ci. Étant donné que c'est moins important, c'est intéressant au point de vue méthode, mais c'est moins important. Au chapitre 3, donc, nous étions arrivés à l'objection, à la difficulté de l'école d'Antisthène, c'est-à-dire l'école cynique. Antisthène est né à Athènes vers 445, mort en 366, et il était le fondateur d'une école qui était dans le sens de Gorgias, donc dans le sens des sophistes. Il prétendait qu'il n'est pas possible de définir le diestie. On ne peut pas définir le diestie d'une chose, la définition n'est que verbia. On ne peut faire connaître que le poion de la réalité. Donc il y a cette opposition entre ce que représente le diestie et le poion. Le poiontis, c'est préciser uniquement le point de vue de la qualité, en quelque sorte. Et l'exemple est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Il est comme de l'air. Donc, on donne des comparaisons. On pourrait dire que ce sont des définitions métaphoriques, si vous voulez. On compare une réalité avec une autre chose. Et on ne peut pas donner autre chose. Les définir consiste à trouver quelque chose de semblable. Ça reste dans l'ordre des similitudes. Voilà ce que vous pouvez dire. Qu'est-ce que c'est que l'argent? C'est comme de l'air. Alors évidemment, si vous ne savez pas ce que c'est, bien, vous dire l'air, c'est comme de l'argent. Ça dépend de ce que vous connaissez. Alors on voit très bien qu'à ce moment-là, on donne plus de comparaison. On ne peut pas donner autre chose. Alors c'est encore là des passages qui sont difficiles à préciser parce qu'il semble bien, Aristote ne précise pas, voilà l'objection, voilà la réponse. Il donne ça là-dessus. Et alors, c'est ça qui fait la difficulté. Je crois que la réponse d'Aristote est celle-ci. Seule la substance composée peut être définie. Il était de comprendre, on essaie de voir. Le problème de la définition, vous savez bien qu'il était déjà venu dans le livre de Théétas. Et que d'une certaine manière, Aristote s'en servait pour préciser ce que représentait la substance. Et à un moment donné, il dit on va donner la solution plus tard. On ne va pas donner la solution là. Alors ici, Aristote semble bien donner la définition. Il me semble que c'est vraiment la réponse d'Aristote. De sorte que seule la substance composée peut être définie. Les composants ne peuvent pas être définis. Donc il reconnaît en face de l'école d'Antisthène et qui dit pas de définition. Or c'est très important que toujours, vous le savez bien, Platon avait voulu définir la définition, puisque définir la définition, du moins sauver la définition, c'est sauver la science. Si on n'a aucune possibilité définie, il n'y a plus de science, il n'y a plus d'épistémère. Or le fondement d'épistémère pour Aristote, c'est le toqué ménage. Puisque c'est les sociétés qu'on définit. Alors ici, nous sommes dans la perspective de comprendre la manière dont les substances sensibles existent, le pot des substances sensibles. On a regardé d'abord le point de vue du sujet, puis le point de vue de l'acte. Et ici, alors, arrive cette objection, comme ça, tout simplement. Au fond, on ne peut rien définir. Donc ça ne sert à rien du tout de rechercher tout ça. On ne peut rien définir. Alors Aristote précise, attention, il y a des choses qu'on peut définir et des choses qu'on ne peut pas définir. Et l'objectant n'a en partie raison. Il a raison, peut-être, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas définir. Alors, la réponse est très, très nette, il me semble. Seule la substance composée peut être définie. Les composants ne peuvent pas être définis. Car dire une définition, c'est la rapporter à un autre. La définition implique bien une comparaison. Vous voyez, l'objection consistait à dire, au fond, vous ne pouvez définir que par une comparaison. C'est vrai. Vous ne pouvez définir qu'en comparant. On ne peut pas définir autrement. Il faut comparer pour définir. Donc, il faut mesurer. La définition est une mesure, donc il faut toujours comparer. Alors, une définition, c'est la rapporter à un autre. On définit, dire une définition, c'est comparer à un autre. Une partie de la définition doit jouer le rôle de matière, l'autre de forme. la différence, le genre et la différence spécifique. Vous ne pouvez définir qu'en vous servant du genre et de la différence spécifique. Donc, c'est bien une réalité complexe d'humain, dont vous saisissez la complexité que vous pouvez définir. Et vous ne pouvez la définir qu'en rapportant ces deux aspects. Donc, on voit bien là comment Aristote donne raison en partie en système et en même temps qu'il donne tort. Vous voyez, c'est la même chose que par rapport à ce qu'il avait dit précédemment à propos de la théorie de Démocrite. Démocrite disait que la substance en acte, c'était une situation. Aristote dit non. La situation, c'est la différence. C'est pas la substance. Ici, nous avons en face un système qui dit pas possibilité de définir, sinon en comparaison. C'est très vrai, la définition implique la comparaison, mais la comparaison est un élément qui nous permet de définir. Ça n'empêche pas que la définition existe. Alors tout dépend évidemment où on se situe dans la comparaison. Je n'entre pas plus dans le détail, mais il est intéressant de voir que tous ces problèmes-là se rattachent pour Aristote à cette question qui pose de la substance. Parallèlement, si les substances sont assimilables au nombre, c'est d'une certaine manière. L'autre objection, c'était cela. C'était de dire les substances sont parallèles au nombre. Vous savez, c'est une chose qu'Aristote, sur laquelle Aristote revient constamment. C'est la théorie des pythagoriciens, c'est la théorie aussi des platoniciens, du moins de certains platoniciens. Les définitions sont assimilables au nombre. Alors, comment pouvons-nous voir la similitude entre le point de vue de la définition et le point de vue du nombre? Et Aristote ici relève quatre points successifs pour montrer comment il y a un parallélisme que nous pouvons faire entre le point de vue du nombre et le point de vue de la définition. La définition est une sorte de nombre, car elle est divisible en indivisible, car on ne peut diviser la qui montre encore la possibilité de définir. Elle est divisible en indivisible. Il y a des éléments, les éléments premiers. Le genre dans ce qu'il a cultivé est un indivisible. Et le genre permet de saisir ce que représente la substance composée. Donc, les définitions sont comme les nombres. Elle est divisible en indivisible. Deuxièmement, deuxième comparaison. Si une des parties des nombres est ajoutée ou retranchée, ce n'est plus le même nombre. Vous pouvez toujours enlever au final. Parallèlement à la définition, on peut ajouter tel élément, et si vous ajoutez tel élément, ce n'est plus la même définition. Il y a un élément d'indivisible et de composition. C'est toujours cette difficulté qu'il y a là. Enfin, c'est toujours la même difficulté sur laquelle Aristote revient. C'est que les définitions demandent, on divise quelque chose d'un. Et pourtant, la division se donne dans la composition. Alors, comment pouvoir saisir cela? Alors, on voit le parallélisme avec les nombres. Chaque nombre est indivisible. Et pourtant, on peut ajouter un nombre. Comment peut-on ajouter des divisibles? Mais le problème, c'est au fond le problème extrêmement difficile de ce que représente, ce que signifie la définition, signifie quelque chose d'un, et cependant la définition se donne dans la composition. Et alors on voit bien le même problème par rapport au pôle de la substance, c'est que la substance est un principe, et la substance composée est composée. Alors, je crois, parce que ce n'est pas dit, alors il faut équilibrer ses lignes. Aristote dit ça successivement. Je crois que c'est exactement le même problème. Vous voyez, c'est que, par rapport à la substance, vous avez un problème d'indivisible. La substance est un principe. Qui dit principe dit quelque chose de premier et d'indivisible. Comment sait-il que quelque chose qui est indivisible se donne à nous dans les substances composées? Comment sait-il que la substance peut demeurer une substance composée? Alors que la substance est un principe. Un principe, c'est pas quelque chose de composé, je veux dire. Et vous parlez de substance composée. Et pour ça, vous décrivez que la substance est un principe. Le livre Theta nous montre que la substance est un principe. Le livre Eta nous montre qu'il y a des substances composées. Quelle différence est-il entre les deux? C'est que lorsque vous regardez la substance comme un principe, vous êtes dans l'analyse métaphysique. Quand vous regardez la substance composée, vous regardez la manière dont la substance existe. Donc vous êtes en face du comment. La définition, qu'est-ce que c'est par rapport à la réalité? Dans la définition, il y a deux aspects. Il y a ce que la définition signifie. La définition signifie le toqué ménal. Le toqué ménal est indivisible. Et puis il y a le comment de la définition. Oui, vous retrouvez le même problème. Alors je crois que c'est pour ça qu'il donne. Encore une fois, il ne dit pas, j'interprète. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi nous retrouvons là un problème parallèle. Le problème parallèle du principe indivisible et des substances composées. Le problème de la signification de la définition, la définition signifie quelque chose d'un. Le totien n'est pas. Le totien est indivisible. Or, comment vous exprimez cela? Vous l'exprimez par la composition. D'où si on confond le problème du principe et le problème du pauvre, on voit très bien toutes ces confusions. Et tout l'effort d'Aristote en face de Platon est de distinguer le principe du pauvre. Ce que Platon faisait pas. Eh bien, il fit tout son effort aussi par rapport à la définition, c'est la même chose. C'est de montrer que ce n'est pas le même problème, le problème de ce que signifie la définition et comment la définition se réalise. Alors, c'est la même chose pour le nombre. Chaque nombre est indivisible. Et comment le nombre est indivisible? Vous voyez? Vous trouvez les deux problèmes. Encore une fois, c'est dit successivement, mais je crois que nous pouvons comprendre la perspective de ce livre. Troisième parallélisme entre le nombre et la définition, il y a dans le nombre un principe qui le rend un. Donc, il vient de dire qu'on peut ajouter au nombre. Et pourtant, le nombre est un. Vous voyez? Donc, c'est le troisième parallélisme. Il y a dans le nombre un principe qui le rend un. Car il n'est pas une pure juxtaposition. Parallèlement, la définition elle aussi est une. Donc il y a aussi une unité dans la définition. C'est une unité analogue à celle du nombre. Vous pouvez regarder la définition sans son unité, vous pouvez regarder la définition sans sa composition. Comment est-elle une? La substance est une. Non comme une unité et un point, elle est une car elle est intellectuelle. Alors nous retrouvons le problème de l'acte et de la puissance à propos du pauvre. Mais nous l'avions déjà vu. Alors ici, il précise, elle est une parce qu'elle est acte. Elle est en acte. Et elle est positive et cassée. Donc c'est encore une nouvelle définition de la substance. Pour ceux qui veulent récolter ces définitions de la substance, c'est intéressant de voir ce point de vue. De voir que de fait, vous avez quelque chose de nouveau de la substance. Nous avons vu que la substance est un principe. Selon la forme de ce qui est. Nous avons vu qu'à propos du pose de la substance, il met la substance est en puissance et la substance est en masse. Là, c'est le pose de la substance. C'est la manière dont la substance se trouve réalisée. Elle est en puissance et elle est en masse. Et ici, il dit que la substance, elle est intellectuelle. Donc la substance est acte. La substance est acte. Oui, c'est des expressions comme ça qui disent qu'Aristote confond la substance et l'acte. Évidemment, je peux voir matériellement les expressions, mais il faut essayer de saisir l'ensemble des affirmations. C'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout prendre matériellement cette expression-là. L'Aristote dit que la substance est acte. Donc, pour Aristote, là, que la substance est acte. Bon, je ne vois pas pourquoi il y a dit c'est ça, dit c'est ça. Vous voyez, c'est surprenant, on ne verra pas beaucoup. Mais on comprend très bien pourquoi, quand on regarde la substance sous le point de vue du pauvre, on peut dire que la substance se réalise en effet selon des modalités différentes. Elle se réalise en puissance, elle se réalise en acte. Mais alors, il y a cette autre affirmation ici, il dit la puissance est positive. Oh, c'est intéressant, c'est ce que vous voulez. La substance est une certaine nature à chacun. Pour chacun, elle est une certaine nature. Vous vous souvenez, le dernier cours, Aristote faisait l'allusion que dans les œuvres d'art, il n'y a pas de substance. Et il disait que le fait de la substance n'existait que dans la nature. Et nous avions vu, nous avons souligné à ce moment-là, la relation entre la physique et l'oubliant. Et vous retrouvez donc ici la même affirmation à propos de l'unité. Comment, de fait, est-elle une, la substance est-elle une? Elle est une parce qu'elle est un fusifi. Elle est une certaine nature. Et elle est une parce qu'elle est acte. Donc deux aspects sous lesquels vous pouvez regarder l'unité de la substance, c'est qu'elle est une certaine nature. Toute nature implique une certaine unité. Alors il y a un lien entre substance et nature. Toute substance sensible, toute substance composée est une foule. Aristote ne dit pas que toute foule est une substance, ça se voit. Mais il dit que toute substance composée est une foule. Et que parce qu'elle est une certaine foule, elle possède une certaine unité. Et elle est d'autre part acte. Donc, voilà ça simplement pour rappeler comment, de fait, la définition est une. La définition est une parce que la substance est une. Le fondement dernier de l'unité de la définition, c'est donc bien le point de vue de la substance. Quatrièmement, le nombre ne comporte ni de plus ni de moins. Le plus et le moins. C'est vrai que c'est une des choses qu'Aristote revient souvent là-dessus. Dans les catégories, il pose la question, est-ce qu'il y a le plus et le moins dans la qualité, est-ce qu'il y a le plus et le moins dans la substance? Alors ici, il nous dit, le nombre ne comporte ni plus ni moins. Il n'y a pas de plus et le moins dans la nombre. Parallèlement, à l'égard de la substance, kata to eita. Et kata, donc encore une nouvelle expression de la substance, que nous retrouvons ici, la substance A, la substance tout ici, c'est cassé, et puis la substance kata to eita. C'est la première fois, je crois, que nous retrouvons dans la même erreur. La substance selon eita. La kata to eita. Donc la substance selon eita. La scolastique dira substance formelle. Aristote ne dit pas substance formelle. Il ne dit jamais substance formelle. Il dit de temps en temps la substance matérielle. Il ne dit pas substance formelle. C'est très curieux. Il dit la substance selon la forme. Pas tout à fait la même chose. Parce que quand il dit substance selon la forme, il veut nous dire, faire comprendre que c'est bien la substance vue selon cet aspect de la détermination de la forme. Mais ce n'est pas la forme. C'est la substance selon la forme. Et il dit aussi la substance kata tuvi. Donc la substance selon la vie. Il met en parallèle les deux. Donc le nombre ne comporte ni plus ni moins, ne comporte pas le plus et le moins, de même la substance, celle qui est selon la forme. La substance selon la forme ne comporte pas plus ou moins. Mais ceci est différent quand elle est avec la matière. Alors il y a l'expression métapelle. La substance est selon la forme ou la substance est avec la matière, mais pas avec tout l'air. Vous voyez, c'est très précis comme langage. Et je crois que c'est très important, parce que vous savez, la composition. Quand la substance est avec la matière, c'est la substance composée. C'est pas la substance à l'état pur. La substance en tout à fait, c'est la substance catastrophe. Vous voyez, la formalisation de la substance, nous dirions ça. Nous regardons la substance dans ce qu'elle a depuis elle-même. Et puis nous regardons la substance, mais ça. La substance avec la matière. Alors la substance avec la matière, elle peut comporter du plus et du moins, parce que nous avons ça, justement, de la potentialité et la potentialité intellectuelle du moins. Alors on nous dit après ça, arrêtons-nous ici pour cette analyse. Ça, nous allons voir encore autre chose cependant. Alors, c'est dommage que ce n'est pas terminé, mais il y a encore trois chapitres sur toujours ce fond de la substance. Donc vous voyez, comme c'est difficile, hein, ce chapitre, de voir l'unité de ce chapitre. Et on voit très bien, quand on prend matériellement, on tient ce chapitre à l'air de vider tous les tiroirs. Pas que ça, on vide tous les tiroirs. Mais je crois qu'il y a une unité parce que c'est toujours le point de vue du corps. Alors, on va pousser l'enquête avec le chapitre 4. Le chapitre 4, intitulé par Tricot, l'écho dans les différents êtres et dans les événements. Aristote, en ce qui concerne la substance matérielle, péri, pète, ou liquet, ou via. Alors, vous avez ici le péri, donc on regarde la substance matérielle. Il dit substance matérielle. Il dit pas seulement la substance avec la matière. La substance avec la matière, il l'avait dit en comparaison avec la substance catastrophe. Tandis qu'ici, il va regarder ce qu'il y a de particulier sur la substance matérielle. Donc, vous avez la substance, comme une autre expression, c'est intéressant à regarder, parce que c'est très intéressant à relever. On est dans toute une étude sur la substance de l'arrivée, c'est très intéressant de voir la manière dont la substance est prise différemment. Alors vous avez ou liquet ou viable. Alors le péri est ou liquet ou viable. C'est donc au sujet de la substance matérielle. Alors au sujet de la substance matérielle, Aristote va poser un nouveau problème qui l'intéresse ici. C'est de voir que quand il s'agit des substances selon la matière, donc toujours dans l'étude du fond, même si toutes les substances matérielles procèdent des mêmes causes, cependant, vous pouvez préciser la matière prochaine. C'est ça le problème. Parce que quand il s'agit de la cause matérielle, quand il s'agit de la manière dont existent les substances matérielles, il faut essayer de préciser la matière prochaine. Pour préciser vraiment ce que représente la matière d'une substance matérielle, ce n'est pas la matière éloignée. Donc quand vous parlez de la substance matérielle, c'est toujours la matière prochaine. Alors à ce moment-là, vous pouvez lier la substance matérielle. Tandis que vous ne pourriez pas lier la substance avec la matière première. Vous diriez, donne l'exemple, par exemple, c'est très éclairant, par exemple, la matière prochaine du flegme est le doux ou le gras. Celle de la bile, la mer ou quelque chose d'autre. Alors nous voyons que c'est très magnifique, Aristote tranche entre le poisson de ces différentes matières. C'est très amusant, parce que ça, ça fait appel à toute sa conception des différentes compositions. De plus, il est possible que d'une seule matière donnée, naissent divers vers, en raison de la diversité des coefficients. Alors là aussi, c'est très curieux, c'est de montrer qu'il n'y a pas un rapport direct entre la matière et la coefficient. Donc, la précision de la cause matérielle, préciser ce que c'est la cause matérielle, ne suffit pas pour préciser ce que c'est la matière. Vous ne pouvez pas définir une réalité, une physique, par la substance matérielle. Je crois que c'est ça qu'Aristote veut souligner. Parce que justement, il peut y avoir diverses coefficients sur la même cousia matérielle. Sur la même substance matérielle, les causalités, la diversité des causes matérielles peuvent se faire à d'autres choses. Cependant, en certains cas, la cause matérielle, la substance matérielle suffit à préciser. Parce que seule telle causalité peut agir là-dessus. Il y a des cas où la matière est nécessairement cause. Alors, il donne l'exemple, évidemment, des choses artistiques. Il dit, on ne peut pas faire la scie de la laine. On ne peut pas faire à partir du bois une scie, ça ne va pas. Donc, il faut une matière particulière. Donc, ce chapitre est très rapide, il n'a pas quelque chose de très spécial, je crois que le seul intérêt, c'est de montrer au point de vue du pot de la matière que le point de vue de la matière est indéterminé. Donc, c'est le seul intérêt. Chapitre 5, la matière et les contraintes. Et c'est quand même tout un aspect qui est très curieux parce que ça fait comprendre un point de vue métaphysique sur la matière. Aristote ne néglige pas du tout le regard métaphysique sur la matière. Et quand vous regardez avec la physique, vous voyez très bien que c'est une autre considération, c'est pas du tout la même considération, c'est autre chose. Donc on ne peut pas dire tout ce livre est ça, et c'est simplement la physique. C'est un regard métaphysique par le pose de la substance, j'atteins la matière. Et alors j'atteins différents degrés de la matière, je peux préciser dans la matière qu'il y a du plus et du moins. Parce qu'il y a du plus et du moins dans la matière, il y a donc une matière prochaine. Oui, c'est la conséquence immédiate de ce qu'il avait dit précédemment, que lorsqu'il s'agit de la substance matérielle, il y a du plus et du moins. Alors que quand il s'agit de la substance catatoïdote, il n'y a pas de plus et de moins. Je t'ai dit là directement ce que c'est cette substance. Elle est principe. Tandis qu'au contraire, la substance matérielle, elle est sujet. Elle est indéterminée. Elle est en puissance. Alors il y a du plus et du moins. Et parce qu'il y a du plus et du moins, il y a une matière plus ou moins prochaine. Et parce que c'est justement du côté matériel, je ne peux jamais avoir une détermination absolue. Je crois que le chapitre 5 est à peu près analogue à ce point de vue-là. C'est la matière et les contraintes. C'est très intéressant pour vous ça, des contraintes, parce que c'est très intéressant ce petit chapitre sur le point de vue de la matière et les contraintes. Il y a un lien entre le contraire et la matière. Un lien très particulier, que la matière, d'une certaine manière, est le sujet des données. Et si les contraires sont à l'intérieur du même sujet, on comprend très bien le lien qui existe entre la matière et les contraires. Alors il s'agit d'essayer de saisir ce que représente ce lien entre la matière et les contraires. Les contraires ne peuvent pas tous naître l'un de l'autre. Tous les êtres non plus n'ont pas de matière, mais seulement ceux pour qui il y a génération. Les contraires, c'est un sujet particulier, ça n'existe pas partout. La difficulté, la voici. Comment la matière se comporte à l'égard des contraires. Oui, c'est un pauvre. C'est bien la matière, la substance matière. Alors on va essayer de saisir comment la substance matière se comporte à l'égard des contraires. On a vu comment elle se comportait à l'égard du plus et du moins. Maintenant, on regarde les contraires. Alors, le point de vue, le corps, alors l'exemple qui prend, le corps est-il sain en puissance, malade en puissance? Pouvez-vous dire que le corps est également puissant au point de vue de la santé et au point de vue de la maladie? C'est très intéressant parce qu'Aristote touche là ce film que nous avons dans l'existentialisme. Ah, l'homme est fini par un ordre. Alors, il le touche directement ici. C'est passionnant parce que ce sont des questions que les scientifiques se posent. Alors, le corps, on voit très bien, le corps, il est sain ou il est malade? Deux qualités contraires. Tu regardes le corps. Vous avez un corps plein de santé ou un corps malade. Alors, le corps est-il à égale distance, puisqu'il est en puissance, à l'égard de la santé ou à l'égard de la vie? Alors, est-il à égale distance? Est-ce que la matière est un sujet neutre? Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez, c'est la neutralité de la matière. Car sufficiency, la neutralité de l'usillat matériel. Est-ce que vous pouvez parler d'une neutralité absolue quand vous parlez de la substance matérielle par rapport au contraire, quelle neutralité? On regarde également l'un ou l'autre. Alors le corps regarde-t-il également la santé ou la maladie? Ça prend l'importance pour le corps, ce qui peut l'être un l'un ou l'autre. Tu vois, le petit hasard l'un ou l'autre. Mais il y a une même matière, voici dans ma carrière de réponse, mais il y a une même matière dont l'un des contraires est l'état positif, la forme, et l'autre, c'est justement la privation de la forme, qui est une corruption contre la nature. Donc nous ne pouvons pas dire que la matière est un sujet indifférent au contraire. La matière implique un ordre particulier vers telle forme. Et une opposition, elle est capable d'avoir les deux. Mais ce n'est pas le même ordre. Et donc, le sujet que représente la matière, l'état d'indifférence de la matière à l'égard des concrets, ça c'est idéologique. C'est nous qui faisons ça. Ce n'est pas la réalité. La réalité est différente. Parce que ce n'est pas la même chose, la santé et la maladie par rapport au corps et par rapport à la substance matérielle. Une autre difficulté, oui, c'est des petites difficultés qui soulèvent tout simplement. Les questions, le pauvre de la substance matérielle. Une difficulté. Pourquoi le vivant n'est-il pas cadavre en puissance? Vous êtes des cadavres ambulants en puissance. Oui, vous voyez ça, c'est une manière de regarder les gens, pas, de les regarder tous en cadavre en puissance. C'est une vision très particulière. Mais on voit très bien la question, puisqu'au fond, la matière est ordonnée à la vie. Et est ordonnée la santé des maladies. Elles sont un peu plus loin. Elles ont ordonné la mort. L'homme est ordonné à la mort. C'est comme ça qu'on définit l'homme. Il est ordonné à la mort. Alors, est-ce que vous pouvez dire pourquoi le vivant n'est pas cadavre en puissance? Les corruptions, répond Axel, sont accidentelles. On ne peut pas définir le vivant par le cadavre en puissance. C'est un sophisme. Vous définissez par les choses essentielles. Définir l'homme par la mort, c'est un sophisme. Le sophisme de l'existentialisme. Il définit par l'accident. Que c'est accidentel? Accidentel, c'est pas la mort, c'est une chose accidentelle. Parle toujours par connexionnel, c'est pas une chose essentielle au vivant. Alors, les corruptions sont accidentelles. C'est la matière de l'animal qui, par sa corruption, est en puissance de cadavre. Oui, donc c'est par l'animal qui est ordonné à être cadavre. C'est pas l'animal qui est en puissance cadavre. Mais c'est la matière de l'animal. Alors vous allez dire, évidemment, la matière est essentielle. Oui, mais c'est par la corruption. Donc par l'action de quelqu'un d'autre. Parce qu'il subit accidentellement. Il subit cela. Alors qu'il est ordonné au cadavre et il est en puissance. Donc c'est la matière de l'animal qui, par sa corruption, est puissante du cadavre. Alors il prend l'exemple, c'est très curieux comme parallèle, le cadavre est binaire. On comprend très bien ce que c'est. Dans un bivin, on comprend très bien. Le cadavre est binaire. C'est du bien corrompu. Donc c'est binaire. Cadavre et binaire viennent de animal et de vin. Bien évidemment, cadavre et binaire, ça vient de animal et vin. À la manière dont la nuit vient du jour. Vraiment, je le sais. Parce qu'au fond, c'est le problème de l'être du néant. J'y ai été gueule, d'accord ? C'est le problème de l'être du néant. L'être vient du néant. L'être est essentiellement lié au néant. Comme disait Aristote, comme les vieux théologiens qui disaient que le jour vient d'être la nuit. Ça, c'est Aristote, les jours, c'est le théologien qui dit ça. Tu vois, les théologiens, au sens où Aristote est donné, c'est-à-dire Hésiode. Hésiode, c'est pas théologien, c'est le premier des théologiens. Alors, Hésiode dit que la nuit vient du jour. Et il dit que le jour vient de la nuit, tout simplement. Et donc l'être vient du néant. Alors il prend ici l'exemple. Le cadavre et le binaire viennent de l'animal et du vin, à la manière dont la nuit vient du jour. Il y a là changement réciproque. Il faut que les êtres retournent à leur matière. Mais il n'y a pas un ordre essentiel. Donc confusion entre la succession qui existe et un ordre essentiel. Donc, quand vous dites que l'être et le néant sont essentiellement liés, vous faites la même erreur que les premiers théologiens qui disent que le jour vient de nuit. Autrement dit, autre chose est la succession accidentelle, autre chose l'ordre essentiel. Et toute leur philosophie, c'est de confondre justement la succession accidentelle et l'ordre essentiel. Le vin n'est pas défini par l'ordinaire. Vous ne pouvez pas définir le vin par l'ordinaire. Vous ne pouvez pas définir l'animal par le cadavre. Mais ce qui n'empêche pas, de temps en temps, bien, le vin de devenir l'ordinaire. Et qui n'empêche pas que l'animal, de temps en temps, de devenir un cadavre. Mais ce n'est pas essentiel à l'animal et ce n'est pas essentiel au vin. C'est accidentel. Et c'est le fait que la matière qui l'explique, parce qu'il y a le retour à la matière. Il faut que les êtres retournent à leur matière. Et c'est accidentel, c'est pas, ça n'est pas partie de la, ce que représente justement l'Ousia Catato-Waïdon. Ça fait partie de l'Ousia Ulike. Et cette Ousia Ulike porte en elle ses autorités contraires. Et elle porte en elle ses contraires de deux manières différentes. Vis-à-vis de l'un, elle est ordonnée essentiellement. Vis-à-vis de l'autre, elle n'est pas ordonnée essentiellement. C'est très archivale. C'est très joli comme analyse. Hein? Et tout ça, c'est le pose. C'est le pose de l'ousia matérielle, de la substance matérielle. Et c'est donc la confusion du pose et du TSP qui amène nécessairement des copies. Vous voyez? Et c'est l'indiqué dedans. Chapitre 6. Alors nous revenons au grand problème de l'unité de la définition. Quelle est la cause de l'origine? C'est aussi très intéressant parce que c'est un problème sur lequel Aristote cesse de revenir. Nous l'avons vu au livre Theta. Tout le grand problème dernier était le problème de l'unité et nous revenons ici encore sur le problème de l'unité. Quelle est la cause de l'unité des définitions et des noms? Alors, si le tout est autre chose que l'assemblage des parties, il y a une cause. Si vous regardez uniquement le tout global, enfin, le tout global, le tout global n'a pas d'unité. Parce que c'est des choses qui s'assemblent les unes aux autres. Non, on voit très bien. Vous secouez, c'est pas l'exemple de prendre le plateau, vous secouez du blé, n'est pas que tous les grains s'assemblent. Il y a une certaine unité. Mais c'est une unité d'assemblage. Il n'y a pas de cause pour cette unité. C'est uniquement que vous avez secoué d'extérieur, les choses assemblées de cette manière-là. Il n'y a pas de cause d'unité immanente. Tandis qu'au contraire, lorsque vous êtes en face d'un tout, qui n'est pas un tout d'assemblage, alors il y a une certaine unité, il faut chercher la cause de l'unité. Or, les définitions, c'est un logos qui possède une unité. Non pas une constitution, mais une unité essentielle. Le logos peut impliquer des parties. Or, animal raisonnable n'est pas du tout un tout assemblé, uniquement un tout d'assemblage, un tout consécutif. Donc c'est autre chose, il y a une unité profonde dans l'union de animal raisonnable. Quelle est la cause de cette unité? Qu'est-ce qui fait que l'homme est un? Pourquoi est-il un? Et non, animal et vipère assemblés comme ça l'un à côté de l'autre. C'est pas un assemblage de l'animal et du vipère. Il doit donc y avoir une unité. Donc vous voyez, c'est toute la question. Que si la définition possède une unité, il doit y avoir une cause de cette unité. Si la substance est une, si la réalité est une, il doit y avoir une cause de cette unité. Autrement, c'est un simple assemblage. Le problème du hasard, oui. C'est ça. Donc l'assemblage des choses, ou au contraire de voir qu'il y a une certaine unité. Unité organique. Le vivant représente une unité organique. Cette unité organique, c'est pas un simple assemblage. S'il y a une unité organique et que ce n'est pas un simple assemblage, il faut donc y avoir une cause de cette unité. Voici la réponse que donne Aristote. Donc ça, c'est pour lui, c'est une question très très importante à laquelle il revient tout le temps. S'il y a d'une part la matière, l'être en puissance, de l'autre la forme, l'être en âme. Tout peut se faire. Donc, la réponse qu'il donne, c'est en fonction de l'être en puissance et de l'être en âme. Enfin, nous avions déjà vu. Donc, c'est par le point de vue du pot qu'intervient la métaphysique de l'art et de la puissance que nous avons étudié dans le livre suivant. Et nous retrouvons ici au terme de ce livre la même chose. C'est le point de vue du pot qui nous permet de dire que la matière est une substance en puissance et que la forme est une substance en âme. Et grâce à cette distinction de ce qui est en puissance et de ce qui est en âme, on va expliquer l'unité. Mais quelle est la cause qui fait passer l'être de la puissance à l'âme? Comment de fait une réalité en puissance peut-elle devenir en âme? C'est la cause d'efficience. Pour ce qui est des êtres soumis au devenir. Pour ce qui est des êtres soumis au devenir, qui implique un certain devenir, c'est par le point de vue de la cause efficiente que progressivement l'être en puissance devient en âme. il n'y a pas d'autre cause qui fait que la sphère en puissance devient la sphère en acte que le temps qui est l'émane de l'un et de l'autre. Pour les réalités qui n'ont pas de matière, chacun, chaque être est immédiatement essentiellement saint, car c'est immédiatement essentiellement qu'il est, soit substance, soit qualité. Leur taux qui est l'émane est un et c'est en même temps le reste. Voilà ce qu'il vous dit. Très rapide, c'est très très rapide comme explication, et c'est je crois très important, parce que c'est un problème sur lequel le fait il revient tout le temps. Et c'est le problème, c'est ici, il donne la solution d'une certaine manière, où il nous montre que le point de vue de l'unité d'un être, l'unité d'un être touche son être, que l'un est tout simplement la propre unité d'un être. L'analyse de l'acte et de la puissance, c'est une analyse. Que l'intelligence saisit de fait ces deux états, être en acte et en puissance. Et qu'un être qui est en puissance devient un être en acte, sous l'action d'un autre. Un être qui est en acte peut être en unité. Et donc, c'est l'acte qui explique l'unité. C'est pas bon, c'est l'acte qui explique l'unité. Il ne faut pas chercher d'autre explication de l'unité que l'acte. Un être qui est en puissance ne peut être pas l'unité. Il peut changer. Il est en puissance, il n'est pas déterminé. Donc c'est là qui explique le point de vue de l'unité de l'être. Un être qui de fait n'a pas de vie, alors vit immédiatement, qui possède sa fluidité immédiatement. Alors à ce moment-là, c'est la fluidité immédiate qui suffit. Parti à plus de vie. Autrement dit, pour expliquer l'unité d'un être en devenir, c'est l'acte seul qui permet d'expliquer. Donc, nécessairement, il va l'expliquer par toute la métaphysique de l'acte. Et ça oriente vers le livre suivant. C'est que pour bien préciser l'unité d'un être en devenir, c'est l'acte qui explique l'unité d'un être en devenir. Quand il s'agit d'un être qui n'est pas en devenir, la fluidité suffit. Donc c'est le problème du mouvement qui pose le problème de l'acte, au plan métaphysique. Je crois que ça c'est très important parce que c'est souvent ce qui montre comment, de fait par là, le problème de l'acte se pose immédiatement. Alors là, il y a plusieurs petites considérations qui sont ajoutés et qui sont intéressants d'être soulignés, parce que c'est toujours intéressant de voir comment Aristote là rapporte une série de problèmes. C'est en vue de résoudre le problème de l'unité que certains philosophes parlent de la participation. C'est en vue de résoudre le problème de l'unité que certains philosophes parlent de la participation. Mais ici, on voit très bien à qui ils parlent. Mais ils n'indiquent pas la cause de la participation, ni le type de participer. Donc ils ne disent pas ce que c'est que le fait de participer et ils ne disent pas la cause de la participation. Donc ils regardent uniquement, si vous voulez, la participation comme expliquant comment expliquer l'unité du monde physique que nous voyons autour de nous. On l'explique par la participation. C'est la participation qui explique l'unité. Donc l'unité s'explique par la communion, le sunousia. C'est le sunousia. Alors il s'agit de Lycophron, un disciple de Gorgias. Aristote revient de temps en temps sur ce disciple. Hein? Alors, pour lui, la science n'est pas autre chose que la communion de l'acte de savoir avec l'art. C'est très joli comme définition de la science. Hein? C'est subjectif, vous voyez. La communion, c'est l'acte de savoir avec l'art. Pour d'autres, la vie est composition, connexion. Et l'unité est composition et connexion. C'est ça que je dis. Bon, la cause de toutes ces erreurs, donc de la participation de ceux qui disent uniquement que l'unité c'est la communion et pour d'autres qui disent que c'est la connexion et la composition, la cause de toutes ces erreurs a été de rechercher la raison unificatrice de la puissance et de l'acte. Voilà ce qu'Aristote souligne. L'erreur profonde de la participation, c'est très sérieux, la cause de toutes ces erreurs, l'erreur profonde de la participation, parce que la participation est d'être en premier lieu, a été de rechercher la raison unificatrice, axiome, la raison unificatrice, de la puissance et de l'acte et de la différence. Car la matière prochaine et la forme sont une seule réalité, tout autre être, mais en puissance et en acte. Donc, rechercher comment est unifié revient à rechercher la cause de l'unité. Pourquoi ce qui est un est un? Chaque chose est une, et ce qui est en puissance et ce qui est en acte ne sont qu'une seule chose. il n'y a de l'unité aucune autre cause que l'acte du moteur, quand il s'agit du feu, qui a fait le passage de la puissance à l'acte. Et quand il s'agit d'une réalité qui n'implique pas de venir, on ne peut pas. Il n'y a pas de matière, il y a plat, il y a le dossier de l'état. Donc vous voyez ce qu'Aristote veut montrer, que la solution à la participation, c'est le problème de la fleur. Très important parce que ça nous fait, ça nous montre l'importance pour Aristote du livre des temps. C'est, je crois, l'intérêt de ce dernier chapitre, c'est qu'il prépare le livre des temps. Il montre que le fait de ne pas avoir compris la distinction de la et de la puissance, et d'avoir compris la distinction de la puissance comme, comme une distinction de forme ou de matière, c'est qu'alors on ne peut comprendre l'unité. L'unité foncière des choses ne peut se comprendre que par là. Parce que, justement, lorsqu'il s'agit de l'acte et de la puissance, la même réalité, en puissant dire l'acte, c'est l'analyse du détail. Alors vous voyez qu'au fond, ce même ça annonce directement ce que nous allons voir la fois prochaine, et là j'insisterai un peu plus, parce que le livre Theta est quand même un livre extrêmement important. Je vous dis que nous allons voir au fond des quantités de choses, des idées.
23e cours.
Et là, sûrement, le livre